Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de l'émission, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton répondra à la non-question « Alors, comme ça, le web à 25 ans ?» Thibaut, que l'on retrouvera en fin d'émission pour son complément d'enquête. Le son, ce sera « Le musée du muscle ». Quant à nos invités du jour, Omer Pesquer et Pierre Ginaire, pour parler des musées. S'intéresser au rapport entre musée et numérique, c'est rapprocher ce que tout éloigne apparemment, d'un côté de l'historique, du temps long, du matériel, de l'architectural, du dur, de l'autre côté de la circulation de fichiers, de l'instable, du toujours en mouvement et de la continuelle prospective. Et pourtant, il semble qu'il y ait une fertilité à cette rencontre et une fertilité à mains égards, mais il y a peut-être aussi des effets de concurrence, parce que si le but des musées d'art est de mettre à disposition du public des œuvres, ils doivent faire avec un nouveau concurrent, un autre concurrent, il y en a déjà eu. Internet, Google, Wikipédia par exemple, qui se sont donné cette mission aussi avec des armes dont tous les musées et lieux d'art ne disposent pas. Alors concurrence ou émulation, tout ça est pensé d'ailleurs, est pensé depuis longtemps. Alors nous, ici à Place de la Toile, nous nous y intéressons un peu tardivement, il faut dire, et on ne pourra pas rendre compte de tout ce qui s'est fait et tout ce qu'on pourrait faire en termes de rapprochement, de rapport entre musées et numériques. Mais disons que notre ambition aujourd'hui pourrait être globalement la suivante, c'est adresser une sorte de petit panorama des questions que le numérique adresse au musée dans des champs aussi divers que la rencontre avec le public par exemple, ou même, pourquoi pas, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, la conservation des œuvres. Mais ce serait aussi de rêver un peu à ce que pourrait être un musée de demain, ou peut-être un musée qui existe déjà, je ne sais pas. Omer Pesquer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un muséo-geek.
Oui.
Ouais. C'est comment, muséo-geek ?
Un muséo-geek, donc comme son nom l'indique, muséo, donc musée, geek. Vous savez ce que c'est des geeks ? Vous en avez déjà beaucoup parlé.
Voilà, j'en ai reçu quelques-uns, des gens qui aiment l'informatique et qui aiment la culture numérique. Et puis alors, vous intervenez dans le secteur culturel et puis pour des institutions muséales notamment.
Exactement.
Et puis vous êtes par ailleurs à l'initiative de Muséonum, qui est une plateforme de ressources. Et puis c'est un groupe de réflexion aussi sur le numérique au musée et plus largement dans la culture.
Une communauté aussi.
Une communauté. D'accord, donc ça vous discutez, vous rencontrez.
Oui, voilà, c'est une communauté de pratique, donc on se rencontre, on discute aussi bien en ligne que physiquement.
Avec des gens qui sont dans des musées et pas
avec des gens qui sont dans des musées, avec des gens qui s'intéressent au numérique dans les musées, avec des étudiants qui ont travaillé dans les musées. Ouais. C'est surtout des gens qui sont professionnels, mais il y a des gens qui ne sont pas professionnels. Puis il y a des gens aussi qui sont dans des secteurs connexes, donc par exemple des gens qui sont dans le théâtre. D'accord. Ou des gens qui sont dans les archives. Donc, par exemple, Wikipédia a un terme pour définir les musées, les archives, les bibliothèques, les centres d'art, c'est GLAM.
GLAM ?
Et GLAM.
C'est-à-dire
galerie, librairie, archive, muséum.
Ah oui, c'est pas mal ça, GLAM. Et puis évidemment, j'imagine comme glamour.
Comme glamour, ou glamrock.
Pierre Ginaire, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, vous êtes artiste, vous travaillez depuis longtemps avec le numérique, sur des supports numériques, sur des objets numériques. Vous êtes par ailleurs commissaire d'exposition, vous étiez le co-commissaire, vous n'étiez pas tout seul, je crois, de la très belle exposition qui a eu lieu à la Friche de la Belle de Mai cet été, à Marseille, qui s'appelait Des images comme des oiseaux.
Oui.
Donc, c'était une très belle exposition. Vous avez été aussi le commissaire de la première exposition sur les jeux vidéo en France, au Musée des Arts et Métiers, hein,
oui.
C'est ça ? Ça s'appelait Museo Games.
Museo Games.
En fait, outre le fait que vous avez tous des noms qui riment en R, vous mettez Museo partout. C'est ça les deux choses qui vous réunissent. Hein. Museo Geek, Museo Machin. Et puis, vous avez participé à l'ouverture d'un lieu qui s'appelle l'Imaginarium à Tourcoing, qui est un lieu de création, d'innovation, dont vous avez imaginé le fonctionnement et la direction, qui fonctionne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans vous. Alors juste, on ne va pas faire l'histoire du rapport entre les musées et le numérique, mais toutes ces réflexions ne datent pas d'hier. Et j'aimerais juste savoir, quand est-ce qu'on a commencé à réfléchir réfléchir au rapport entre informatique et musée. On ne disait pas numérique à l'époque, j'imagine. Et par quoi on a commencé à réfléchir? Est-ce que c'est l'archive? Est-ce que c'est la mise à disposition du public? Est-ce que Omer Pesquer, c'était quoi les premiers?
Alors, bon, il y a différents historiques qui existent. J'en ai fait un petit d'ailleurs qui s'appelle 15 ans de numérique au musée. Mais 15 ans, je pars un peu avant. Moi, je commence en 86 avec au musée d'Orsay. Il y avait les premiers postes de consultation. Donc, ils consultaient des informations. Après, il y a eu à peu près la même chose avec des vidéodisques. Donc, des vidéodisques, on pouvait stocker beaucoup de contenu et il y avait des postes de consultation.
Mais à l'intérieur des musées?
À l'intérieur des musées.
D'accord.
Parce qu'un vidéodisque coûtait... Alors, après, le vidéodisque, c'est devenu un peu plus petit. C'est devenu un peu le CD-ROM.
Oui.
Et donc là, on a eu, par exemple, le premier CD-ROM du musée du Louvre qui datait de décembre 1994. Donc, ça fait 20 ans.
Oui.
Donc, c'est pas récent. Et puis, l'année suivante, le Louvre a sorti son site internet.
Voilà. 95.
95.
Et il y avait des œuvres reproduites à l'époque? J'ai aucun souvenir de ça.
Ben, je pense qu'à l'époque, vu l'internet tel qu'il était à l'époque, parce que moi j'en faisais déjà, je pense pas beaucoup. C'était plus une page. Il faut voir aussi qu'il y avait 3615 Louvre ou Joconde, je sais plus. Enfin, voilà, il y avait aussi le Minitel en France, hein, faut pas l'oublier.
Mais sur laquelle on pouvait pas reproduire d'œuvres d'art, non, apparence contre, super pixelisée.
Non, on pouvait avoir les fiches d'œuvres.
Ah oui, des fiches.
Oui, les cartels avec les informations, tout ça sur les œuvres. Donc il y avait déjà un côté post-visite ou pré-visite pour préparer sa visite.
Ah oui. Pierre Giner, vous auriez des choses à ajouter à ce petit historique?
Quand on réunit musée et numérique, on a commencé à réfléchir à des objets partiels, en fait.
C'est-à-dire?
Ben justement, en se disant un DVD pour faire un catalogue, voilà, une sorte d'archive, après une borne pour faire un cartel plus sophistiqué. Et on n'a pas commencé à réfléchir, on s'en est pas aperçu que finalement les archives des musées se numérisaient et qu'à partir de ce moment-là, quand il y avait un petit peu de quantité, il y avait un nouvel objet. Et c'est un autre terme sur lequel on pourrait réfléchir, le musée numérique. Enfin, une nouvelle étape.
C'est-à-dire que c'est ce que vous dites par là, c'est que je crois qu'un des travaux pendant cette émission, ça va être de vous traduire aussi.
Ah, je suis désolé.
D'un côté, il y a.
Exagère, c'est mon traducteur, c'est un plaisir.
Non, mais je plaisante en disant. Mais, non, ça veut dire que vous avez d'un côté, c'est qu'on ne s'est pas aperçu que pendant qu'on réfléchissait comme ça des petits objets partiels, il y avait un gros truc de fond qui s'appelait la numérisation des œuvres.
Exactement.
D'accord.
Et même, simplement, les banques de données consistent.
Parce que les banques de données, il y en a de plusieurs types. Il y a les banques de données, il y a les inventaires par exemple. Voilà. Ça s'est posé la question.
Ah oui, bien sûr.
Pour faire les inventaires. Puisque qu'est-ce qu'on a dans notre musée? Qu'est-ce qu'on a dans nos réserves? Dans certains musées, ils n'avaient presque pas de catalogue et tout ça. Donc ils se sont posé la question, comment on inventarie tout ça?
Et ça veut dire que, après ce que vous dites, Pierre Giner, que c'est que tout ça s'est fait sans qu'on pense globalement.
Oui, je crois.
Oui, je pense aussi.
Ouais. Tout simplement parce que, mais vous l'avez dit dans l'intro en fait, le problème du musée, c'est le mur. Et c'est ce qui permet d'accrocher, c'est ce qui permet de faire la réserve. Pour qu'il y ait musée, je pense qu'au début, il faut qu'il y ait une caisse, en fait. L'endroit où on collecte, où le collectionneur vient mettre les objets et les protège du reste du monde, les sépare. Et il s'avère que le numérique, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la disparition, il y a l'invention d'un nouvel espace, qui est un espace de partage, de circulation, de diffusion, et qui est dans une expansion... extrême, enfin auquel on participe tous là, en ce moment vous enregistrez un podcast. Donc on n'arrête pas, et le musée travaille à l'envers de ça. C'est-à-dire qu'il, d'abord au début quand il a... enfin pas tous, mais c'est-à-dire qu'il y aurait deux histoires. Il y aurait l'histoire du numérique d'un côté, voilà, qui est plus nouvelle peut-être, et puis il y a l'histoire des musées. Et malgré l'histoire des musées, après il y a une histoire locale maintenant, quoi. Comment des musées qui existent se convertiraient au numérique ou s'associeraient ou se relieraient avec le numérique. Il y aurait peut-être des nouveaux musées qui naîtraient du numérique, tout simplement parce qu'il y a des nouveaux ensembles d'objets. Voilà. Théoriquement, un musée s'occupe, je crois, d'objets matériels et immatériels.
Oui, c'est vrai.
Il s'avère que l'immatériel...
Depuis longtemps, il s'occupe d'immatériel.
Voilà, a priori, depuis toujours. Ouais. Et puis après, il y a des inventions de musées, et ça, c'est... Et finalement, il y en a eu plein qui ont été inventés, réalisés ou pas. Et avant, même le numérique, il y a peut-être, je sais pas, il semble me souvenir qu'il y a une expérience de McLuhan, un workshop qu'il fait au musée de New York.
Ah bon? Dans les années, quoi, quelles années? Les années 60, 50?
Ouais, je crois les années 60. Qui est un truc, bon, échevelé comme il l'était, quoi. Ouais. Il dit extrêmement provocateur, mais où il dit qu'il faut tout remplacer par des magnétophones et des projections.
Ah ouais. Donc c'est quasiment remplacer les œuvres par des reproductions numériques de ces œuvres.
Voilà,
c'est dingue.
Qu'est-ce qui se passerait à l'intérieur? En tout cas, lui-même le voit tout de suite, ouais, vu qu'il est intéressé aux médias. Alors après, c'est une autre question. Je pense que c'est une des questions qui est posée aujourd'hui, même c'est à la société. C'est la question de est-ce que le musée n'est pas un média parmi d'autres, finalement? Voilà. Quand on rentre dans ce qui est en train de se produire. Et c'est sûr qu'au début, on s'est dit à quoi nous servirait le numérique. Et dans une sorte de conversion, mais je pense qui affecte tous les domaines de la société, quels objets manquants ou quels objets convertis, finalement.
D'accord, mais peut-être qu'il faut quand même... Enfin, je suis d'accord avec vous, c'est une interrogation sans doute
centrale. Et après, il y a une autre question, c'est qu'est-ce que ça ferait? Enfin, justement, maintenant, je pense qu'on est en train de prendre conscience du fait qu'on a un matériau très structuré et très volumineux qui permettrait une conversion générale. Et du coup, il y a quelque chose à faire avec ça qu'il faut imaginer.
Mais peut-être avant d'imaginer ça, il y a quand même juste des lieux où ça travaille. Quoi. Est-ce qu'on peut faire des lieux et puis peut-être des fonctionnalités un peu évidentes, alors peut-être un peu basses par rapport à ce que vous dites, Pierre Giner, moins global, disons. Mais où ça travaille le numérique dans les musées? C'est quoi ce qui est important? Enfin, ce qui est important, ce qui travaillait au quotidien, c'est la question du rapport au public, c'est la question de l'archive, c'est la question de... C'est quoi Omer Pesquer aujourd'hui, parce que vous êtes le nez là-dedans, vous travaillez avec les musées, avec différentes institutions, etc. C'est où, là où ça agit?
Partout. Ça agit de tous les côtés. Comme Pierre Giner l'a dit, comme dans le reste de la société, le numérique est de plus en plus présent partout. Donc, il rentre par toutes les... Si le musée est une caisse, il rentre par toutes les possibilités qu'il y a, les portes, les fenêtres. Partout où il est possible de rentrer, le numérique rentre. Donc, il y a évidemment tous les rapports au public, la médiation et tout ça, qui est un aspect très important.
Ouais.
Parce que là, on peut faire plein de choses dans l'espace d'exposition.
Et on fait déjà plein de choses.
On fait déjà plein de choses, mais on peut en faire encore beaucoup plus. Il y a tout le rapport au public, tout ce qu'on laisse comme possibilité au public. Est-ce que le public, on veut le laisser que visiteur, ou est-ce qu'on veut qu'il devienne, comme j'emploie souvent l'expression, visite-acteur, c'est-à-dire qu'il est plus de possibilités de participation, que son contenu rentre, fasse partie du musée, qu'il soit le contenu proposé, comme un peu quand on conservait dans une pièce les livres d'or. Voilà, c'est ce type de choses.
Et ça, par exemple, ça donne quoi, ça, comme expérimentation? Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant ou...
Bah, déjà, c'est toutes des expérimentations qui sont liées aux réseaux sociaux, tout ça. Parce que bon, pour les musées, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de musées sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est bon, par rapport à ce qu'on pouvait dire avant, c'est d'aller comme ça à la rencontre du public ailleurs que leur espace, avec des codes qui ne sont pas obligatoirement les codes qu'utilisent les musées habituellement.
Oui, mais c'est quoi? C'est une sorte de pub un peu plus maligne?
Non, parce qu'on peut faire de la médiation, on peut présenter des œuvres, avoir un programme, exactement comme dans un musée. C'est pas, il y a des musées qui l'utilisent que pour de la communication, il y a des musées qui sont beaucoup plus fins là-dessus, qui l'utilisent vraiment tout un panorama de médiation avec des choses qui sont prévues, avec un calendrier.
D'accord.
Et pour amener le public progressivement à des choses plus complexes et tout ça. Donc
ça, c'est le premier aspect, disons, rapport au public.
Le rapport au public, bon, il y a le rapport au public, il y a un autre rapport au public qu'on oublie toujours, c'est le rapport à tout ce qui est billetterie et tout ça, évidemment, aussi, qui se dématérialise. Donc ça veut dire aussi, des fois, de commander son billet avant pour aller à une heure à une exposition, parce qu'il y a des gros flux dans les musées, dans certains en tout cas, et dans d'autres, il y en a moins. Mais donc les musées qui ont des gros flux cherchent à trouver comment canaliser leurs flux. Donc c'est une solution de se dire, vous avez un ticket, un peu comme un train. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas souvent.
Oui, mais qui induit un rapport au musée très différent. C'est pour prendre rendez-vous pour aller au musée. Bon, c'est ce qu'on fait pour les grosses expositions déjà. Mais
ça se fait pour les expositions où il y a du matériel qui est... où on a une jauge avec du matériel où on peut faire rentrer 200 personnes, par exemple, parce qu'on a des documents ou des toiles ou des choses qui sont, voilà, qu'on doit traiter de façon particulière pour ne pas les endommager. Et donc, il y a tous les rapports aussi liés à la photographie au musée, enfin, là, pour la liberté du visiteur. Donc, est-ce que le visiteur a le droit de faire des photos ou pas?
On en est où de ça, d'ailleurs? Enfin, vous n'allez pas faire un... Parce que c'est compliqué. On en est où de cette capacité, ce droit à photographier ou pas?
Alors,
les
il y a une charte qui a été établie avec le ministère de la Culture, qui normalement autorise dans les établissements à faire des photos sans flash quand il n'y a pas de droit d'auteur sur les œuvres, évidemment.
D'accord, ok.
Alors, donc, parallèlement à ça, il y a des musées ou des centres d'art qui essayent d'ouvrir plus et qui, par exemple, je pense à un centre d'art avec lequel je travaille qui s'appelle le Jeu de Paume.
Petit centre d'art.
Un petit centre d'art et qui demande à aux photographes vivants, par exemple, qui exposent chez eux, s'ils sont d'accord pour que les gens prennent des photos. Ça, c'est une attitude assez récente. Ou qui ont ouvert leur Wi-Fi récemment pour que les gens puissent tweeter.
Depuis les œuvres, devant les œuvres.
Voilà.
Ah oui, c'est beau. Ça, j'ai pas pensé à cette question, effectivement, des Wi-Fi ou pas dans les musées.
Ouais. Oui, il y a toutes ces... mais ça pose aussi des problèmes de sécurité et tout ça. Donc, c'est à plein de niveaux.
Pourquoi ça pose des problèmes de sécurité?
Parce qu'il y a des... ça émet des ondes et donc il y a des critères sanitaires, je crois, qu'il faut respecter. Je connais pas bien la chose, mais bon, voilà.
Ah, c'est intéressant. Ça. Donc, ça pose pas de problème chez les gens, mais au musée, c'est vrai que...
Oui. Mais chez les gens, ça devrait poser aussi des problèmes. Ouais. Ça devrait se poser des questions. Enfin voilà. Donc il y a plein de champs. On va pas tous les décrire, mais il y a aussi dans toute la partie numérisation que le public voit moins, ou la partie restauration des œuvres.
C'est-à-dire
qu'on peut analyser les œuvres aujourd'hui avec différentes visions de l'œuvre et les mettre dans un programme et qui ramène à l'œuvre originale avec le vieillissement, tout ça. Enfin, voilà. Et qui permet de restaurer l'œuvre plus proche de l'œuvre originale qu'on l'aurait fait avant. Il y a tout ce type de choses. Puis ça peut aller jusqu'à la numérisation pour de la vente.
C'est-à-dire
le musée Van Gogh Amsterdam, il a numérisé des Van Gogh et il les a imprimés avec une technique d'impression, genre impression 3D si vous voulez. Et donc on a une œuvre qui est imprimée avec du volume et tout ça,
qui ont,
à l'œil nu, on ne fait pas la différence avec l'original et la copie.
Ah, c'est extraordinaire. Ils ont reproduit l'épaisseur de la peinture, etc.
Exactement. Et donc, je crois que c'est 25 000 euros une pièce, si vous voulez l'acheter. Ils en ont fait un certain nombre et c'est pour financer le musée, parce que le musée a toute charge des moyens de financement.
Donc, ils font des multiples de Van Gogh pour financer le musée.
Oui.
Oh, c'est extra.
Voilà, donc ça peut aller dans tous les sens, en entrée, en sortie. Enfin, c'est le numérique, c'est circulatoire, on l'a déjà dit.
Ouais. Pierre Giner, vous voulez ajouter quelque chose?
C'est-à-dire que ça affecte l'archive d'un côté, parce que l'archive est aussi grande, mieux informée que les œuvres, finalement. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas coller à un Van Gogh son commentaire physiquement.
Ouais,
Par contre, dans l'archive, on a l'image, donc elle est... Puis après, ça affecte le public, qui effectivement... Est-ce qu'il y a un musée numérique? En tout cas, il y a du spectateur numérique, enfin, en tout cas, transformé. Un type qui rentre voir une exposition à Beaubourg, enfin, moi, je l'ai vécu. On va photographier une œuvre qu'on aime beaucoup d'un artiste. On envoie un ami, et puis un gardien vient vous voir et vous dit « mais il faut l'effacer ». Donc, vous l'effacez consciencieusement, mais elle est partie déjà en même temps, de votre téléphone. Et puis, finalement, votre ami vous en renvoie une meilleure photo en vous disant « moi, je l'ai la meilleure définition, elle est mieux celle-là
».
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui pose problème au musée parce que... Enfin, c'est le mur dont je parlais, mais il n'empêche qu'il y a une porosité de la reproduction, de la transmission. Et en même temps, c'est dans la nature du musée originel. Enfin, les musées, quand ils se créent au 18e, fin du 18e en France, ils sont faits pour édifier et on édifie quand même par de la copie. Voilà.
Et la copie est libre. On oublie souvent que la copie a servi à édifier. Ouais.
Et puis après, justement, c'est ce dont parlait Homer, le principe même du numérique, c'est sa copie. C'est la copie. C'est vraiment dans s'il y a où est l'original, quoi. Et je pense que c'est ça qui pose un problème énorme au musée. C'est la question de la valeur, parce qu'effectivement, il y a une dispersion de l'original. Et en même temps, là aussi, on est exactement dans ça, enfin, dans une de ces fonctionnalités qui serait la transmission. Et ça, c'est assez rigolo, parce que tout... je crois que ce qui est posé, c'est quand même la... Bon, les collectionneurs, je crois, appellent ça l'arbitrage. C'est-à-dire, on peut collectionner plein d'objets, des fois, on l'a en double, il y a un double qui est un peu moins bien, il manque une pièce, et du coup, on va se débarrasser d'une pour en avoir une autre. Pour des raisons économiques, des raisons de choix, tout ça. Et là, en fait, dans le domaine du numérique, la question de l'espace ne se posant plus, on peut en avoir plein. Voilà, on peut en avoir toutes les versions. On peut, enfin, c'est une.
Et du coup, il y a une sorte... pour certains types d'œuvres qu'on peut reproduire, mais on peut pas tout reproduire.
Eh ben, quand même reproduire un Van Gogh en imprimante 3D imprimée. Je suis pas sûr que ce soit l'œuvre par ailleurs. Mais c'est quand même marrant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir confusion. Et c'est cette question de la confusion, des espaces confus, flous, dont les limites s'estompent ou se compliquent, et qui est peut-être intéressante. Et je pense que c'est juste pour finir là-dessus, une sorte d'actualisation, parce que vous disiez où est le problème, mais le problème, il est juste dans le jeu des acteurs, quoi, c'est tout. Et savoir si le musée est en avance, en retard, finalement le spectateur lui-même ou le visiteur habite le musée désormais, enfin sans doute des choses comme ça, lui-même... Et connecter un autre.
Oui, dans la définition du musée, il y a quelque chose qui est dans la définition de l'ICOM, qui est le conseil, la définition, on va dire, standard du musée. Il y a plusieurs définitions. Le début de la définition, ça commence comme ça, c'est une institution nation permanente, donc à ce côté dont on a parlé tout à l'heure, sans but lucratif, au service de la société et de son développement. Donc, au service de la société et de son développement. Donc, aujourd'hui, développement, en plus, on trouve un mot qui est très proche
de l'informatique.
Et ouvert au public.
Ça, c'est le début de la définition d'un musée officiellement.
Oui, la définition de l'ICOM. Il y a d'autres définitions. Après, il y a par exemple les musées de France, leur définition. Enfin, voilà.
Mais qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion de cette définition?
Dans la définition du musée, il y a beaucoup de choses qui se rapprochent en réalité, au numérique. Puisque on parle de conserver, mais dans les ordinateurs, on a des disques durs. On parle de transmettre, mais qu'est-ce qu'on fait dans le numérique? On fait que transmettre. Quand on regarde la définition, puis il suffit de changer quelques mots.
La définition du web.
On arrive à la définition un peu du web. Donc c'est intéressant.
D'ailleurs, puisqu'on parle de définition du web, on va écouter Thibaut tout de suite. Thibaut qui s'est posé cette question, puis on rediscute après ensemble, on aura un bon moment. Thibaut qui s'est plongé dans son ordinateur pour répondre à cette question qui n'est pas une question. Alors, comme ça, le web à 25 ans?
Alors, comme ça, le web a 25 ans. 25 ans, à peu près mon âge, incroyable, le temps passe, les bras m'en tombent. Le World Wide Web a littéralement la toile d'envergure mondiale. Cet ensemble de pages écrites, accessibles à distance, ensemble de liens eux-mêmes reliés les uns aux autres, l'hypertexte. Le web, à ne pas confondre avec Internet, dont il n'est jamais qu'une application parmi d'autres, et qui compte pour une petite part du trafic Internet total, a donc 25 ans. Moitié moins que l'Internet lui-même, mais il faut bien dire que sans web, toutes les autres applications de l'Internet, le peer-to-peer, le courrier électronique, etc., ne seraient pas utilisées par grand monde. La toile, quoi qu'on en dise, c'est cette fenêtre du navigateur qui nous a ouvert, nous autres non-techniciens, à l'Internet. Il y a un quart de siècle, Tim Berners-Lee inventait, co-inventait avec Robert Caillaud, mais on parle moins du belge que du britannique, ce magnifique outil qui permet aujourd'hui à des millions, des milliards de personnes de regarder en streaming du porno en haute définition, de spéculer sur la disparition d'un avion au large de la Malaisie et de collaborer, sans quitter son écran, à une immense inspection de l'océan sur la base d'images satellites. Ça se fait. C'est l'occasion de ressortir les mêmes photos qu'il y a 5 ans, celles du bureau du CERN où la toile est née, ou encore celles des horribles CERNettes, photos d'un groupe de musique féminin de ce même CERN, une des premières à circuler via un navigateur web, peut-être pour conjurer le sort technicien très inégalitaire avec les femmes. Je me suis toujours demandé pourquoi la toile était née au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Et en fait, la réponse est assez simple, c'est juste qu'il s'agit d'un lieu qui réunit des scientifiques d'un peu partout, parmi lesquels certains ont cherché et trouvé le moyen de communiquer encore plus largement ensemble. Là où le CERN va jouer un rôle crucial, et c'est sans doute cela qu'on devrait célébrer plus encore que l'invention de Berners-Lee et Caillaud, c'est cette décision prise en 1993 de placer les technologies et protocoles du web en dehors de la propriété intellectuelle. Décision cruciale car, je cite Hervé Le Cronier, elle va permettre à chacun de créer des sites, d'élargir les qualités des navigateurs, de lancer cette vaste opération sans centre et sans chef d'orchestre qu'était la construction du web. Alors 25 ans plus tard, il n'y a pas beaucoup plus de femmes du côté technicien, les inégalités sont toujours là, en contradiction flagrante avec les promesses dont on disait cette invention solidaire, en gros la liberté, l'émancipation, les lumières quoi, et la question revient fréquemment. Comment avons-nous pu laisser faire? Comment notre mai 68 numérique est-il devenu un grille-pain fasciste? Surveillés, prisonniers des algorithmes, aliénés par nos propres données personnelles, est-ce qu'on a vraiment encore de quoi se réjouir? En cherchant à répondre à ces questions, Pierre Mounier insistait il y a quelques mois sur l'ignorance des logiques sociales réelles. C'est bien en ignorant les logiques sociales réelles que le mai 68 numérique se transforme en grille-pain fasciste, et il ne faut pas attendre des hackers qu'ils viennent nous sauver. Si nous voulons inverser le cours de cette histoire, écrit-il pour conclure, c'est nous seulement qu'ils pouvons, en recourant à des méthodes éprouvées par tous les peuples du monde depuis des millénaires, la pensée critique et la mobilisation politique. Voilà, 25 ans, il n'en fallait pas moins, sans doute, pour arriver à ce niveau de réflexivité.
Merci Thibault, on vous retrouve en toute fin d'émission pour votre complément d'enquête, et on sait que les musées vous tiennent à cœur.
Ah oui.
Et on écoute Muse, le groupe anglais, le morceau s'intitule Museum Muscle, le muscle, le musée des muscles. Et il est extrait du premier album de Muse, Showbiz, c'était en 99. France Culture, Place de la Toile, le magazine des cultures numériques, où on parle ce soir de musée avec Omer Pesquer et Pierre Giner. J'aimerais, pour commencer cette deuxième partie, reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, Pierre Giner, en disant la question n'est-elle pas au fond de savoir si un musée est un média comme un autre. Et je me trouvais que c'était particulièrement frappant pour aborder une des questions qui est quand même importante, qui est la concurrence aussi, que le numérique en tant que lieu de diffusion, pour le coup très extérieure au musée, est possible d'être, c'est-à-dire peut être possiblement. Et je pensais notamment à deux lieux où il y a aussi œuvres exposées et œuvres diffusées et potentiellement œuvres regardées, que sont ce qui s'appelait le Google Art Project et qui maintenant s'appelle le Art Institute Google ou je sais pas trop quoi. Et puis Wikipédia par ailleurs, qui est aussi un lieu où se voient des œuvres, s'exposent des œuvres. Alors avec une particularité, c'est pas simplement des œuvres qui sont recensées, c'est des œuvres qu'on peut parcourir, qui sont historicisées, contextualisées, qui peuvent même donner lieu à des formes, des choses qui peuvent ressembler vaguement à des expositions, enfin qui sont avec des sortes de curateurs, hein, on pourrait dire. Et donc, comment effectivement le musée peut se placer par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il est par rapport à ça? Et qu'est-ce que sont ces espèces de lieux par rapport à un musée Omer Pesquer? Comment vous définiriez cette interaction-là?
Déjà, par exemple, Mila Douéi fait une grande différence entre le numérique et le numérisé. Donc, donc, souvent, les choses qui sont présentées en dehors sont les choses numérisées. Bon, c'est un petit détail, mais bon,
Mais ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, par exemple, quand on voit une œuvre sur Google Art Project, ça reste une œuvre qui est définie, qui est numérisée. Et donc, on est dans un format qu'on regarde sur son écran, son téléphone, sa tablette. On est dans un format, on n'a pas du tout par l'idée de la taille de l'œuvre. Et on n'a pas du tout le même ressenti. On a beau regarder quelque chose avec un hyper zoom en 7 milliards de pixels, ou voir 10, 15, 100 comme le fameux tableau de Van Dyck qui a été numérisé en 100 milliards de pixels, dont vous avez fait une chronique, Xavier Delaporte, que c'est pas la même chose que l'œuvre. On est quand même dans autre chose. On n'est pas dans la même chose. On voit quelque chose de plat, parce qu'aujourd'hui, on a une restitution qui est souvent plate, qui n'est pas en volume. Donc sûrement qu'il y aura des renumérisations à faire pour voir des choses un peu plus en volume plus tard. Et en plus, on est, par exemple, quand on se balade dans l'aspect street view du Google Art Project, on est dans des musées vides. On peut s'en apercevoir. On peut apercevoir qu'il n'y a personne. On n'est pas dans World of Warcraft où on voit les autres personnes qui visitent en même temps que soit le musée.
Ah, j'avais jamais pensé à ça, effectivement. C'est des visites seules. Mais en même temps, c'est le rêve de visiter un musée seul. Les autres dans un musée, c'est un obstacle, c'est un problème. Ils passent devant.
Quand il y a trop d'autres, mais quand on visite en famille, par exemple, un musée, il y a une transmission. Et donc, le musée, c'est transmettre, mais il y a soi aussi par rapport aux autres. Et par exemple, il y a quelque chose dans le numérique, dans la transmission. Enfin, là, on s'éloigne un peu de la question que vous avez posée.
Non, mais c'est pas grave.
Par exemple les visites avec tablette, où c'est les enfants qui apprennent à leurs grands-parents avec lesquels ils font les visites, comment fonctionne l'application. Donc il y a une transmission dans les deux sens dans ce cas-là. Il y a les grands-parents qui connaissent l'histoire de l'art peut-être, et les enfants qui connaissent comment servir du dispositif plus facilement. Parce qu'ils ont, et je dis pas que les personnes, moi je pense pas du tout que les digital natives aient des capacités supplémentaires, mais ils ont moins d'inhibition par rapport au dispositif, et ils hésitent pas à aller dans tous les côtés.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas concurrence parce qu'on n'est pas dans la même forme d'expérience.
On n'est pas du tout dans la même forme d'expérience. On n'est pas du tout dans la même forme d'expérience. Google Art Project. Alors, Wikipédia, par exemple, Wikipédia, il y a plein de musées qui font des partenariats avec Wikipédia. Mmh. Donc, justement, tout à l'heure, j'ai parlé de GLAM. C'est parce que Wikipédia fait des partenariats avec des musées qui sont.
Mais c'est comme le Google Art Project. C'est aussi c'est des gens qui acceptent, c'est des musées qui acceptent que leurs œuvres soient numérisées. C'est des partenariats. Google ne vole pas les œuvres.
Sauf que Google, c'est quelque chose de totalement fermé. Comme le Google Art Project, il n'y a pas du tout de participation. Mmh. Par exemple, quelqu'un qui visite un musée et qui a une information sur une œuvre qu'il n'a pas vue dans le musée et il va sur Wikipédia, il peut rajouter son information. Alors que le Google Art Project, on ne peut pas récupérer les œuvres. Par exemple, les photos d'œuvres qui sont libres de droit, qui sont disponibles sur Wikipédia, on n'a pas du tout ce modèle-là du côté de Google. Donc on est dans Google, on est vraiment dans un côté vraiment très fermé pour le coup.
Bah, un musée vrai, un vrai musée.
Ben non, je trouve, parce qu'un musée est ouvert assez. Et là, je trouve que l'ouverture, elle est assez faible. En plus, il y a au niveau de la documentation scientifique qui est liée au Google Art Project, elle est assez faible.
Oui, mais je veux dire que c'est un musée. Un musée, on ne repart pas avec l'œuvre sous le bras, c'est ça que je voulais dire. Tandis qu'avec Wikipédia, on repart avec l'œuvre sous le bras.
Puis un musée, c'est des murs aussi, donc des dispositions des œuvres les unes par rapport aux autres et tout ça aussi. Donc si on était tous les œuvres d'un musée sur un mur, ça ne serait pas la même chose. Là, on a à peu près ça avec le Google Art Project. On a quelque chose où il n'y a rien et un musée où toutes les œuvres sont côte à côte et on a tout réduit les œuvres à la même taille puisque c'était très confortable.
Alors quel intérêt selon vous du Google Art Project, enfin du Google Art Institute
Alors il y a plein d'intérêts par contre d'un autre côté, parce que il y a des publics distants, les publics bon par exemple sur Google Art Project j'ai vu des musées qui étaient en Inde puisque la personne qui a créé le Google Art Project est indien d'origine comme vous savez peut-être et où je n'irai sûrement pas dans des régions d'Inde où il y a un musée de la céramique où je n'irai pas mais j'ai pu voir des choses intéressantes et donc je peux voir aussi des choses dans d'autres lieux et je me dis des fois quand c'est plus proche je me dis, ah, je vais peut-être y aller. Ça permet d'avoir comme un catalogue ou comme ce type de choses. Et ça permet de voir une multiplicité, une offre qui est très généreuse, parce que je crois qu'il y a plus de 75 000 œuvres, mais peut-être plus aujourd'hui. Enfin, on est dans le domaine du 10 000, quoi. Parce que voilà, tout à l'heure, on était dans le domaine du milliard pour l'ultra-zoom ou les dizaines de milliards. Là, on est dans le domaine de 10 000. Voilà. Donc actuellement, il y a ce côté-là de tout montrer, de montrer le plus de choses. Enfin, c'est valable avec le numérique. Et donc, on peut voir des choses qu'on ne verrait pas et qui peut donner de l'appétit pour voir les choses en vrai ou aller plus loin, aller sur Wikipédia. Parce que quand on est sur le Google Art Project, on n'est qu'à un clic d'aller sur Wikipédia ou d'aller voir le site du musée.
Bien sûr.
Donc, voilà.
Pierre Giner, comment vous regardez ça, vous, ces autres lieux, ces autres médias
Moi, ce qui m'étonne, c'est que, enfin, ce qui me plaît, c'est que c'est qu'il y a un empilement des médias, des nouveaux sur les anciens, et qu'il n'y a pas de disparition des anciens.
Oui, c'est-à-dire que les gens continuent à aller énormément dans les musées.
Parce que, par exemple, la radio, il n'y a pas l'image. Et pourtant, on arrive à toujours écouter la radio. Alors après, si on le prend même à revers encore, une œuvre présentée au Louvre, j'irai quand même la voir, même si elle est représentée dans la galerie. Ou peut-être que j'aurais toujours envie d'aller la voir.
Et pourquoi justement vous auriez envie d'aller la voir ?
Moi je pense que c'est ça la question, parce que pour aller voir de la peinture, il ne se passe rien, on ne clique pas dessus, elle ne bouge pas. Dans le sens, tous les médias qui se sont succédés, si on considère que... Moi j'avoue que je considère que l'art est un média, mais donc c'est un défaut peut-être. Mais on pourrait se considérer qu'il y a un entraînement des humains quand même aux médias, et à des médias de plus en plus rapides même, ou qui les sollicitent de plus en plus vite, et qu'ils acceptent. Parce que ça c'est un des problèmes dans l'histoire des médias, c'est par exemple la création du cinéma. Je ne sais pas, on dit que d'abord, d'un côté, les Frères Lumière disent que ça n'a pas d'avenir. Puis de l'autre côté, les spectateurs absolument fascinés ont peur du train qui rentre dans la salle. Et donc, et puis peu à peu, ils s'y habituent quand même. Et désormais, on voit des explosions, on regarde la télé et sur plusieurs écrans. Voilà, on combine les écrans. Donc la sollicitation, le stimulus de l'œuvre est de plus en plus intense. Et pourtant, on peut revenir à des stimuli bien plus faibles. Ça, c'est intéressant.
Donc, on peut avoir un goût pour le stimuli plus faible.
Eh ben, je pense que oui, ou tout simplement, il y a une expérience du stimuli plus faible, où il est autre, tout simplement. Peut-être qu'il n'est pas plus faible, peut-être qu'il est autre, qu'il est d'une autre qualité.
D'une autre intensité,
Voilà, d'une autre intensité, d'une autre expérience. Et du coup, effectivement, on peut recréer la galerie en images, ce n'est pas... y représenter l'œuvre, et peut-être que sa représentation... ne vient pas recouvrir la première.
Mais si je vous entends bien, ça voudrait dire qu'on pourrait même aller jusqu'à peut-être moins ambitionner d'utiliser le numérique à l'intérieur des musées. Parce que je pense à, par exemple, des expériences qui ont eu lieu, qu'on a vu pénétrer dans une œuvre, je ne sais plus quelle œuvre c'était, je crois que c'était au Louvre ou à Orsay, on pouvait rentrer dans une œuvre en 3D. Ou alors, il y a de plus en plus comme ça, de dispositifs qui sont à l'intérieur des musées dans lesquels on peut manipuler l'œuvre, etc.
Parce que c'est des œuvres qu'on ne peut pas manipuler soi-même. Donc, c'est des œuvres, par exemple, il y a des coffres ou des choses. Si on veut voir l'intérieur,
ah, oui, d'accord,
on est bien ouais. obligé de les montrer d'une certaine façon. Ou si on veut faire une reconstitution de quelque chose qui a disparu, ouais. on est bien obligé de présenter une reconstitution pour que la personne ait une idée ouais, de ouais. comment que c'était quand c'était... comme quand on reconstitue les dinosaures. En fin de compte, les dinosaures, on ne sait pas comment ils étaient vraiment. On ne sait pas quelle couleur ils avaient. Si on regarde l'histoire de comment les dinosaures sont représentés...
Oui, mais on pourrait dire voilà, le musée, c'est le lieu de l'exposition d'une œuvre, d'une partie d'une œuvre, ou d'une œuvre dans un état. Quoi,
état d'une œuvre.
Voilà, et qu'il y a ailleurs... Il y a ailleurs où là, il y a un autre état, un état où on pénètre, dans lequel on interagit, où on interprète,
etc. C'est plus l'œuvre, c'est dans un document.
Ben, moi, je ne sais pas si c'est pas ça l'œuvre, en
d'accord,
fait.
Ouais.
C'est-à-dire si l'œuvre, elle n'a pas le support ou l'occasion d'une expérience. Et après, alors il y a l'expérience d'origine, et puis après, il y a d'autres expériences. Et finalement, l'œuvre et sa parole se valent, d'une certaine manière. C'est parce que l'œuvre a une parole qu'elle est intéressante. Et finalement, toutes ces expériences, mais elles ne sont pas les expériences ultimes. Elles sont des façons d'expérimenter les œuvres. Bon, moi, je pense que c'est tout simplement, on peut parler de musée numérique ou de rapport de la culture numérique, qui est quand même juste une sorte d'industrie, quand même, à la base. Hein. Enfin, une sorte d'outil technique, que parce que, aussi, la culture a tellement pénétré nos vies qu'on vit avec sans arrêt. Voilà, sur nos téléphones, on a des playlists de malades, ou dans une émission de philo, on entend du rock. Enfin, des choses... ça veut dire qu'il y a une sorte d'hybridation, comme ça, de l'expérience esthétique qui fait que elle est très diverse. À la fois, elle nous accompagne, on est plongé à l'intérieur, et tous ces objets nouveaux, ces sortes d'avatars de l'expérience originale, sont des sortes de paroles sur l'art.
Oui, mais du coup, vous en tirez quelle conclusion pour ce que devrait être un musée ou
aussi
ce que pourrait être un musée,
Pierre-Omer Pesquer? Parce qu'on n'en a pas parlé, parce qu'on parle de l'œuvre comme si elle venait d'être faite hier et qu'elle sentait encore la peinture. Mais quand on se dit, c'est tel artiste qui l'a fait. C'est-à-dire que quand on écoute de la musique, on n'écoute pas quelque chose que la personne a touché. On écoute une partie, on écoute quelque chose qui est restitué. Quand on va avoir une œuvre ou même des pointes de flèches des hommes préhistoriques, c'est les hommes préhistoriques qui les ont fait, les flèches. Donc on a toute l'histoire, pas qui nous contemple, mais qui quelque part on accède à notre histoire en voyant.
Mais je vais poser la même question qu'à Pierre Ginière. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion pour ce que doit être un musée ou de la manière dont il doit interagir avec le numérique?
Je ne pense pas qu'il y a de devoir.
Ouais.
Il n'y a pas de devoir.
Il y a pas de devoir ouais.
Et puis les musées sont très différents les uns des autres. Ça dépend du musée, où il est situé, comment il interagit avec, par exemple, ce qu'il y a autour de, sa ville, tout ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Quand on me demande souvent s'il y a quelque chose à faire vraiment dans un musée en numérique, il n'y a pas une recette miracle. Il faut analyser plein de choses pour comprendre comment on pourrait faire quelque chose d'assez hybride aussi. Parce que souvent, on dit, on va prendre du numérique et en fin de compte, ça va remplacer quelque chose qui n'était pas numérique avant. Et c'est plutôt, ça complète, ça rajoute des couches, comme l'a dit Pierre. Et ces couches, par exemple, si vous allez dans un pays étranger et que vous avez des cartels et que vous ne savez pas lire la langue, c'est un peu embêtant.
En général, il y a des cartels en anglais, souvent, local et anglais.
Il y a des pays où il n'y a pas de cartels en anglais.
C'est vrai.
Donc, imaginez que vous avez un dispositif et que vous pouviez avoir le cartel dans, 20-30 langues. Un peu comme Wikipédia, vous voyez, quand vous mettez une fiche sur Wikipédia, après, elle est traduite par des personnes. Quand les musées mettent du contenu sur Wikipédia, et c'est traduit après. J'ai constaté souvent. Dans ce cas-là, par exemple, moi, je prends un outil de Google, je prends Google, je ne sais pas si vous connaissez cet outil.
Non.
C'est de la reconnaissance de forme. Donc, je vais scanner l'œuvre et je vais arriver sur la fiche Wikipédia correspondant à l'œuvre dans la version française.
D'accord.
Donc, je vais voir une information avec quelque chose de très hybride. Parce que d'un côté, je vois l'œuvre, je passe par Google et j'arrive chez Wikipédia et dans ma culture. Pour vous donner un exemple, c'est tout simple. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du contenu sur Wikipédia.
D'accord, Pierre Ginière.
Non, mais moi je pense qu'après, c'est une période temporaire, ça. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des musées du numérique, et dont le matériau est le numérique. Parce que voilà, les musées sont créés à partir d'un matériau.
Oui,
c'est le contenu qui décide de la chose. Après, on a des expériences, je dirais qu'elles sont intermédiaires ou qu'elles augmentent une expérience d'origine. Voilà, qu'elles la sophistiquent. Alors, on peut reprendre le cartel, le catalogue. L'agenda, le programme, voir de près, la loupe peut-être. Voilà, voir plus de près parce qu'on a plus de définition dans l'image, on peut se rapprocher. Puis après, bientôt, il y aura d'autres musées qui seront les musées de ce matériau qu'on est en train de collecter. Parce que la base quand même du musée, c'est la collecte. Et, mmh. Et il faut avoir ce matériau. Il va falloir.
C'est quoi ce matériau ? C'est par exemple les images du web, c'est par exemple ça ?
Ce que récolte la NSA sur nos conversations. On va pouvoir créer un musée de la conversation, ça va être génial. Et de la parole. Il faut juste qu'ils ne jettent pas. Ils mettent à disposition.
Mais vous savez, Twitter récolte... est archivé à la bibliothèque du Congrès. Hein.
Voilà. Mais par exemple, pour le futur musée de la présidence française, les enregistrements de Buisson seront très utiles. Comme ça. Et ouais. Même, on ne les avait pas encore, ces matériaux-là. C'est une nouvelle archive, mais même sérieusement, ça vaut le coup.
C'est-à-dire que, oui, mais est-ce qu'encore, très bien, imaginons que, vous avez raison, le musée est un lieu de collecte. Bon, voilà, ce qu'on produit comme type de... Ce qu'on produit, c'est aujourd'hui du 0 et du 1 qui donne du son, de l'image, etc. Bon, ok. Mais est-ce que pour exposer ça, pour conserver et exposer ça, il faudra encore quelque chose qui est un musée, c'est-à-dire avec des murs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, Virginia, vous disiez un musée, c'est des murs. Voilà, bon. Est-ce qu'il y aura encore besoin de ça pour collecter ça, cet autre ça, que sont les zéros et les
uns. Non, c'était peut-être Pierre des Ginette. Murs. Et on continuera à utiliser les murs pour ce à quoi ça sert. C'est quand même super bien de pouvoir se caler contre un mur. De pouvoir, enfin, à mon avis, il y a une fonction même physique et importante. Après, je ne sais plus, il y a des musées qui ont été imaginés pour l'automobile. Enfin, pour voir en automobile. Voir les œuvres en automobile. Et il y a sans doute des contenus qui ont été imaginés pour ce type d'expérience. C'est-à-dire qu'on peut avoir des musées de tout. À l'origine, c'est je crois, enfin, je ne veux pas faire l'expert absolu, mais c'est quand même le lieu de la collecte, le lieu de l'archivage après, ouais. Par derrière, et puis le lieu de la transmission. Enfin, et du coup, il faut identifier un contenu auquel on trouverait, dont on trouverait qu'il a de la valeur et penser qu'il faut le garder et le transmettre. Voilà. Après, c'est pour ça, une fois qu'on a revu ça et qu'on se dit, effectivement, comme disait Homer, c'est spécifique, quel est le matériau ? Après, c'est une fonctionnalité, quelle nouvelle forme ? Alors, et après, il y a une autre chose dans le musée, c'est pas seulement une architecture, c'est aussi un discours. Et c'est là que le numérique rentre à nouveau, c'est-à-dire... et que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a la muséologie, quoi, et puis il y a la muséographie. C'est comment on raconte au travers des objets, ou des documents, ou des archives. Et là, le numérique revient parce que c'est de façon intéressante, parce que c'est le lieu de nouveaux récits qui sont inventés. Et de nouveaux récits, sans doute, qui sont multipliés. Et je crois que, outre le fait... Parce que voilà, si chacun d'entre nous peut commencer à déposer de l'information au travers de Wikipédia, même si elle est en même temps... elle va être légiférée, on va décider qu'elle est juste, qu'elle est fausse, on va l'amender. Il n'empêche qu'on peut tous désormais fabriquer du musée, d'une certaine manière, se mettre à médier ses œuvres. Et c'est la question, mais qui d'ailleurs est un terme qui est utilisé sur Internet, c'est ça qui est intéressant, du commissariat ou du curatorium,
c'est ça
qui est intéressant.
Bah oui, c'est ça, non, mais c'est ce que j'allais dire.
On retrouve beaucoup de termes, comme j'ai dit tout à l'heure, on trouve beaucoup de termes semblables.
Bah oui, parce qu'on a vu apparaître, ce terme de curation à l'intérieur du web, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment on met en ordre, qui va mettre en ordre tout ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose auquel je pense depuis tout à l'heure en vous écoutant. Je me dis, mais moi, quand je parcours le web, des moments où j'ai l'impression d'être dans une sorte de musée. C'est-à-dire que quand vous tombez sur ces espèces de blogs qui ne sont plus activés depuis 2-3 ans, quand vous tombez sur ces espèces d'images qui vous rappellent, je ne sais pas, les gifs, ou alors des formes de blogs même qui rappellent ce que c'était que le web avant, etc. Est-ce que vous, Homer, vous n'avez pas ça ? Homer Pesquet, vous n'avez pas ce sentiment que le web lui-même
devient... C'est une partie du musée, mais dans les fonctions du musée, il y en a qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Il y a la partie... Le terme qui revient, c'est... je n'aime pas beaucoup, mais le terme éduqué.
Eh oui.
Il y a le terme éduquer.
Donc, et le web éduque pas ?
Et il y a le terme étude aussi. C'est-à-dire qu'une des fonctions du musée, c'est d'acquérir les œuvres, de les conserver, donc d'avoir des moyens de les conserver, de les exposer, de les étudier. Et j'ai oublié, il y a cinq choses. Et donc de les transmettre, voilà, de les transmettre. Ouais. Donc ces fonctionnalités-là, on ne les trouve pas obligatoirement tout le temps sur le web ensemble. Et un musée, c'est cet ensemble de choses.
Bon, on va écouter Thibault pour son complément d'enquête.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. Je ne sais pas que ce soit très important.
Thibault, cher Thibault,
le musée. Cher Xavier, est-ce que l'un de vous peut me citer un exemple de musée totalement réfractaire au numérique ?
Il y en a, oui. Il suffit d'aller en province pour trouver des musées.
Tout de suite.
Non, ou d'aller, même à Paris, je crois que il y a le musée de la carte à jouer qui est dans une ville qui s'appelle ici Les Moulineaux, qui est une ville qui est très numérique. Et je crois que
il y a le cube à ici Les Moulineaux par ailleurs.
Qui le dirige est assez réfractaire au numérique. D'accord. Même s'il doit avoir un ordinateur, à mon avis, son bureau. Mais voilà. Donc, le numérique ne s'est pas rendu compte, peut-être, qu'il était déjà là.
Comment on traduit curateur? Je me suis toujours demandé, parce qu'il paraît que commissaire d'exposition, ça ne suffit pas vraiment à traduire ce terme. Alors, on est obligé de prendre cet anglicisme.
Omer Pesquer, est-ce qu'on traduit curateur? Curateur, c'est bien, non?
Je ne sais pas, il y a plein de termes, mais curateur, c'est pas mal.
Pierre Génère, vous avez un avis là-dessus?
Ben, y a deux notions qui sont intéressantes. C'est à la fois sélectionner, mais pour dire quelque chose. Ou en tout cas, pour signer une sélection. Bon, moi, j'ai un slogan à la con, je pense.
Enfin, qui est?
J'aime bien, ben, tous curateurs. Voilà.
Alors ça, c'est démago.
Parce qu'en fait, c'est pas démago. Et c'est là que c'est problématique.
Allez-y, vous avez deux.
C'est que par contre, ça oblige derrière. Je pense qu'en fait, voilà, pour revenir juste sur la question précédente, le numérique pose des problèmes à tous les musées, en vrai. Et tout simplement parce que la question de la diffusion, bon, est réglée. On peut distribuer, on peut diffuser mieux. La question de la conservation aussi. Dans un sens, on peut conserver plus, archiver en plus. On peut indexer plus. Et du coup, chacun peut le faire. D'une certaine manière, on en a tous les outils désormais de ce genre de choses. Voilà un blog. On peut même archiver sa propre pensée, hein, dans la version du blog précédent. Ou les trois générations précédentes de technologie. Et qu'on peut venir annoter soi-même. Enfin bon, voilà. Donc, mais par contre, du coup, ça réoblige à ce que la question du choix et de la parole soit beaucoup plus engagée. Et c'est ça, les déplacements qui se produisent. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut être tous curateurs, mais après, la question qui est posée, c'est quoi faire curateur et pourquoi et comment, voilà.
Vous aviez un slogan, Omer Pesquer?
Oui, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Moi, c'est pour la partie active des visiteurs. Et c'était, pour moi, musée plus numérique égale participation. Mais bon, c'est, voilà, c'est...
D'accord. Okay.
Pierre Génère, vous avez dit, à la radio, il n'y a pas l'image.
Ah, bien sûr. Que...
Je pense que ça nécessite un complément d'enquête.
Mais c'était à la fois, un peu comme tout ce que je dis, c'est à la fois... C'était bête, c'est vrai. Et en même temps, pourquoi j'écoute encore la radio? C'est ça la question.
Et justement, à ce propos, vous avez souvent dit, est-ce que le musée n'est pas un média parmi d'autres? L'art est un média selon vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par l'art est un média? Et en quoi c'est une... Enfin, ça peut faire débat, cette question-là.
Parce que ça ne pose pas la question de la valeur, je pense, et de la valeur des œuvres. Ça, c'est problématique. C'est la même chose sur la façon dont le numérique attaque les restes du monde réel précédent, si on le voyait dans cette perspective-là. C'est qu'il n'y a pas de haut et de bas, il y a une sorte de transformation sur de l'horizontale. Et puis qu'il y a de la diffusion. Et on est dans une société où la diffusion, la distance, voilà, tout ça, tout s'augmente. Voilà, il y a de l'expansion. Le problème qui est posé. Désormais, tout est média et nous-mêmes, nous le sommes. Et nous nous construisons comme des médias à l'intermédiaire de ces réseaux de diffusion de nous-mêmes, de notre parole, en regard de nos propres archives, de notre image. Et que la société a un problème avec ça désormais.
Alors moi, je vais finir par quelque chose de très concret. Ouais. C'est que les musées ont une initiative entre eux. C'est, ils ont un hashtag qui s'appelle Jour de fermeture, qui permet de voir ce qui se passe dans les musées le jour où ils sont fermés.
Ah ouais.
Donc voilà, à suivre.
Non, mais cette idée, effectivement, d'ouvrir le mur, je pense que c'est au Louvre-Lens, c'est ça, où on peut voir les réserves. Les réserves sont transparentes.
Ah, j'ai pas vu, mais.
Bon, merci beaucoup à tous les deux, Omer Pesquer et Pierre Génère, d'être venus à Place de la Toile nous éclairer un petit peu sur les réflexions qui sont à l'œuvre dans ce rapport entre les musées et le numérique. Vos références sont sur la page de Place de la Toile, où vous pouvez aussi réécouter cette émission pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an. La semaine prochaine, on sera en direct depuis le Salon du Livre, Porte de Versailles à Paris, où on parlera bovarisme. On se demandera si Internet ne fait pas de nous tous des Madame Bovary. Nous en parlerons avec Georges Lévy et Thomas Mondémé. Ce sera donc samedi prochain, 18h10, au Salon du Livre, où vous pouvez venir nous voir, enfin venir voir Thibaut Henton, surtout qui a une chevelure incroyable en ce moment. Vous êtes les bienvenus. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte à la technique. C'était Pierrick Consigny, réalisation Vanessa Nadjar. Il est 19h, vous écoutez France Culture dans quelques instants. Sur Écoute, le magazine de musique d'Elisabeth Tchungi. Bonne soirée, bonne semaine.